Parole de Dieu, je vous invite à tourner dans Éphésiens, si ce n'est déjà fait. Et on continue notre étude systématique dans ce livre, ce merveilleux livre de Éphésiens. Et juste avant de se lancer dans notre texte, on va prendre un mot de prière. Oui, Seigneur Dieu, c'est un grand texte, qui nous rejoint tous et chacun, un texte qui nous parle de ton amour pour nous, mais aussi de l'amour qu'on doit avoir pour toi. C'est une prière de Paul, mais à travers cette prière, il y a une richesse d'enseignement, Seigneur, pour une vie chrétienne pratique, Seigneur. Et on veut te demander de nous éclairer, de nous guider, afin qu'on puisse apprendre de ta parole. Amen. Et on va lire à partir du verset 14 du chapitre 3. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs, par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. All you need is love. Célèbre chanson des Beatles. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'amour. Et la chanson commence comme ceci, c'est simple. Love, 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 love. Love, 9 fois. Et tout le long de la chanson, je n'ai pas compté, mais je t'ai rendu à peu près 50 fois. All you need is love, 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 love. Ça revient tout le long. Et c'est une chanson qui a marqué notre culture. Et l'amour est un sujet pour ces chansons qui vendent des CD beaucoup. Et ça forge notre culture. C'est un sujet qui est des livres populaires, qui gagnent des prix de littérature. C'est le sujet préféré probablement des psychologues qui analysent la psychologie humaine et qui, dans leur littérature, dans leur argumentation, l'amour prend une place prédominante. Mais on a souvent tendance à diminuer l'amour à quelque chose qu'on ressent. La science des religions, de son côté, c'est qu'elle diminue le discours religieux ou les croyances simplement des discours d'amour sans justice. Et je passe les exemples et j'en passe. Et tout cela pour démontrer au moins l'importance du sujet, mais aussi le besoin de bien définir notre sujet. On utilise l'amour pour bien des sauces. Je peux dire « j'aime ma femme » et « j'aime les pommes ». C'est deux expressions valables, mais à connotation fortement différente. Et je peux dire « j'aime ma femme et j'aime mes enfants ». Mais en elles-mêmes, les deux expressions ont des subtilités. Et intuitivement, on sait, juste en mentionnant ces phrases, qu'il faut définir selon comment qu'on l'utilise. Et les nuances dépendent, en quelque sorte, de l'objet à aimer. « J'aime ma femme, j'aime mes enfants », c'est vrai, mais pas tout à fait de la même façon. De même, la Bible utilise le terme « amour » ou « aimer » dans des sens différents. Mais il faut définir, et ça nous relève un défi, la culture d'aujourd'hui, parce que l'amour est si présent partout dans les chansons, les arts et dans tout. Mais c'est important de le définir en termes chrétiens, c'est-à-dire bibliques. Et voici une réflexion de quelques auteurs qui ont écrit un livre ensemble qui nous parle de l'amour. Il est dangereux de traiter l'amour de Dieu comme les fondations d'une cathédrale glorieuse. Nous construisons un énorme édifice sur lui, mais rarement nous avons des problèmes avec ce qui se passe sous terre. Et lorsque des fissures commencent à apparaître plus haut, on découvre avec horreur que personne n'a la clé du sous-sol. On a bâti des grosses cathédrales, mais très peu se sont souciés du fondement sur lequel on a bâti tout notre système de pensée. Et dans le cadre de ce livre, il voulait montrer qu'il n'y avait pas une connaissance réelle du fondement du christianisme. Et quand ça commence à se fissurer dans l'immeuble, souvent on se rend compte avec stupéfaction que c'est la base qui est vraiment maganée. Et la fragilité du concept nous amène à bien le définir. Mais le Nouveau Testament se tourne souvent vers la croix pour nous démontrer l'ampleur et l'importance de l'amour de Dieu. Et comment elle le fait? Elle le fait en nous montrant, premièrement, à quel point on est pécheur et qu'on mérite la colère de Dieu. Et le péché envers un Dieu infiniment saint est infiniment grave. Et l'amour de Dieu est manifesté à travers la croix de Jésus, qui déverse sa grâce et son amour sur des pécheurs qui ne voulaient rien savoir de Dieu au préalable. Et c'est tout le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. 2:7, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce et par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Il s'est acquis un peuple parce qu'il a déversé lui-même son amour sur des pécheurs. On était séparés. Mais la Bible traite l'amour de Dieu d'une façon qui ne diminue jamais l'horreur du péché envers ce Dieu-là. Et dans le texte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une prière. Et en fait, c'est la deuxième dans l'épître, dans cette lettre aux Éphésiens. La première, c'est dans le chapitre 1, du verset 15 jusqu'à la fin, au verset 23. Et c'est cette deuxième prière qu'on va regarder aujourd'hui et analyser. Martin Lloyd-Jones, qui est un grand prédicateur au 20e siècle, a fait deux remarques en considérant cette prière. Deux remarques qui, à mon sens, sont essentielles. Premièrement, la prière de Paul est exclusivement spirituelle. Paul n'est pas intéressé par les choses matérielles, mais ça nous parle plutôt de l'attitude spirituelle, autant de Paul, mais autant pour nous, qui apprend de cette lettre de Paul. Et le Seigneur fait la même chose. Dans Matthieu, par exemple, il dit « Considérez les choses du royaume, et toutes ces choses, le restant va vous être donné. » Et à plusieurs reprises, il attire l'attention vers notre cœur, vers le royaume de Dieu, vers les choses qui sont spirituelles. Et Paul n'est pas vraiment intéressé par les choses matérielles. Ceux qui ont étudié la psychologie connaissent sûrement cette pyramide. Les pyramides de Maslow. La pyramide qu'on appelle des besoins. Et ça, quand ça a sorti, ça a été une bombe dans le milieu des universités, celui qui avait sorti ça. Et puis là, le premier, la base de tout, c'est les besoins physiologiques, les besoins matériels. Et si j'ai pas ça, ça donne rien de bâtir sur les autres étages, parce qu'en réalité, ce qu'il veut, c'est à manger. Et quand j'ai à manger, je suis rassasié, là, je peux passer sur une autre étape, le besoin de sécurité, avoir un foyer, puis après ça, je peux passer à l'autre, l'appartenance dans un groupe, et puis le besoin d'estime, et puis le besoin de réalisation. Et ça a été une bombe dans les universités. Et même dans nos librairies communes, c'est encore très, très, très véhiculé. Mais les besoins matériels, aujourd'hui, sont à redéfinir. Parce que le matérialisme d'aujourd'hui n'est pas comme quand ça a sorti dans les années 70 environ. Aujourd'hui, le matérialisme, c'est quelque chose qu'on consomme. Et avec raison, Jacques Marcoux définit le matérialisme en ce sens. Le matérialisme est ce qui nous amène à faire dépendre notre bonheur de ce que l'on consomme, de ce que l'on possède ou ce que l'on rêve posséder au détriment de Dieu qui est pourvoyeur en toutes choses. Le matérialisme vise le corps au détriment de notre cœur, vise le matériel au détriment du spirituel, mais Paul n'est pas intéressé à ça. Il veut aller au plus important. Deuxième remarque de Lloyd-Jones, c'est que la prière de Paul est spécifique. Non seulement il nous parle de choses spirituelles, mais c'est qu'il est spécifique. Paul va mettre en place certains énoncés qu'il va placer d'une façon logique, et les uns après les autres, on va apprendre des choses. On va apprendre que, premièrement, le chrétien prie, que, deuxièmement, le chrétien prie par l'Esprit, et aussi, il prie en Christ. Et à travers cette prière, il place ces éléments qui l'amènent et sur lesquels il revendique des choses pour nous, pour les croyants, pour les Éphésiens, mais plus large aussi à nous dans l'Église. Et ça nous lève un défi pour nous, chrétiens. Est-ce qu'on prie? Et quel est l'objet de notre prière? Si je suis dans une réunion de prière, ou encore je vais dans des assemblées, je suis allé prêcher dans des assemblées, ou encore au face-à-face, je t'ai invité, je vais faire une prédication, après la prédication, on me demande, est-ce qu'il y a des sujets de prière particuliers? Et dans les réunions de prière, on pose cette question, pourquoi tu veux qu'on prie? Et là, on part, tu sais, puis, là, je vais à ma maison, je m'en vais chez le notaire. Mon travail, c'est pas sûr, ça se peut qu'on tombe en grève. Bon, tu sais, puis là, quel est l'objet de vos prières? C'est un défi. Et Paul est intéressé au spirituel. Et pourquoi pas dire, priez pour que j'aime ma femme. Priez pour que je sois saint. Pour que je prêche la parole correctement. C'est ça qui est important pour Paul. Une vie de sainteté, une vie qui reflète Christ, qui reflète cet amour-là. C'est notre fondement. C'est tout un défi. On va essayer de comprendre un petit peu cette prière. Et aujourd'hui, évidemment, c'est, comme je disais à Trevor tantôt, c'est énorme le matériel qu'il y a dans ça. Et je me permets d'être sélectif dans les choses que je vais traiter. Et on va regarder au moins trois choses. Deux sur trois. On va voir que premièrement, Paul veut que l'on soit fortifié dans l'homme intérieur. Et ensuite de ça, on va regarder que Paul veut que nous connaissions la profondeur de l'amour de Dieu. Et on va prendre un bon temps là-dessus. Et ensuite de ça, on va voir ce qu'on appelle une doxologie, une louange, que Paul élève Dieu qui peut faire encore plus que ce que l'on pense. Relisons le verset 16 et je commence à partir d'ici. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, par son esprit dans l'homme intérieur. Paul veut que l'on soit fortifié dans l'homme intérieur. Et l'énoncé ou la proposition principale de ce verset est celle-ci. Afin qu'il donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et dans vos Bibles, vous avez sûrement deux virgules. Avant la richesse, selon la richesse de sa gloire. Un avant, un après. Et ce que Paul demande, c'est qu'on soit fortifié par l'Esprit dans l'homme intérieur. L'expression « l'homme intérieur », on la retrouve dans d'autres passages dans la Bible. Entre autres, dans Romains 7, 22, qui nous dit « Car je prends plaisir à la loi de l'Éternel dans mon fort intérieur. » Et dans ce chapitre, Paul veut démontrer la nécessité de recevoir une puissance qui vient de l'Esprit à cause de notre lutte avec le péché. Un autre texte, 2 Corinthiens 4, 16, qui nous dit « C'est pourquoi ne perdons pas courage, et même lorsque notre âme extérieure se détruit, notre âme intérieure se renouvelle jour après jour. » Donc, il y a un besoin journalier, quotidien, d'être renouvelé par l'Esprit, surtout parce que nous-mêmes, on se dégrade. Et on peut donc définir l'homme intérieur comme ceci. C'est le siège de la conscience personnelle et de notre être moral. Lenski nous dit que l'homme intérieur est la contrepartie de l'homme extérieur. C'est là où l'esprit vient et trouve un synonyme dans le terme « cœur » qu'on va voir aussi tantôt. Et c'est une expression aussi qui est utilisée dans l'Ancien Testament où ce qui parle du cœur. C'est la place qui vient s'installer. C'est le centre de la personnalité, des pensées, des volontés, de nos émotions. C'est tout ce qui gère notre personne. On pourrait dire que c'est l'organe spirituel qui régit toute notre vie spirituelle. En fait, c'est l'organe principal du corps. C'est vrai dans le domaine spirituel, c'est vrai dans le domaine physique. Le cœur, c'est la place qui pompe le sang, qui envoie le sang, la vie à tous les membres de mon corps. Et si mon cœur physique détracte, tout mon corps détracte. Et c'est vrai dans le domaine spirituel. Si mon cœur détracte, tout mon corps va détraquer. Et c'est pour ça qu'on trouve un proverbe 4:23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et là, on peut faire une longue liste. Travail, emploi, études, plus que toute autre chose. Et c'est là qu'il vient. C'est là qu'il vient pour donner la vie. Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, au verset 17. Et la première chose qui me frappe quand je lis ce verset, c'est « habite dans vos cœurs ». C'est une expression étrange. Étrange parce qu'il parle à des chrétiens. Il veut que le Saint-Esprit vienne habiter nos cœurs. Et là, on peut poser la question, n'y est-il pas déjà? Mais ici, il ne parle pas de l'œuvre première de l'Esprit de venir sauver un croyant. Il a tout fait ça au chapitre 2. Mais il parle plutôt de la nécessité de l'Esprit de faire une demeure permanente dans le croyant. Il y a d'autres passages que cette expression est utilisée et il y a surtout sur une présence continuelle de l'Esprit dans le croyant. Et si Christ vient dans notre cœur pour donner la vie, cette place centrale dans la vie spirituelle d'un croyant, c'est parce qu'il veut la première place. C'est parce qu'il veut diriger nos pensées, c'est parce qu'il veut nous amener à quelque chose, à être semblable à Christ. Il vient habiter dans nos cœurs par la foi. L'implication de cette prière, c'est que plus le Saint-Esprit va donner de la puissance à un croyant, plus grande va être la transformation de ce croyant à la ressemblance de Christ. Est-ce que c'est votre désir de ressembler à Christ? Mais il y a une condition qu'on peut qualifier de nécessaire pour notre christianisme. C'est que Christ habite nos cœurs, comment? Par la foi. Il y a plusieurs mouvements qui essaient de renier la foi comme étant le centre du salut, là, mais j'ai essayé de penser à comment j'aurais pu le dire plus clairement. Là. Je n'ai pas été capable. Le Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est une qualité nécessaire pour notre christianisme. Si Christ n'est pas vivant dans le croyant, c'est n'importe quoi, mais ce n'est pas le christianisme. S'il ne vient pas par la foi dans le cœur du croyant, c'est n'importe quoi, mais ce n'est pas le salut. On ne parle pas du salut par grâce comme Éphésiens. Fait qu'enlevons tout de suite Éphésiens de la Bible si ce n'est pas ça. Et le chrétien a un pouvoir à sa portée incroyable. Christ qui a ressuscité Jésus vient dans la vie du croyant. Par son esprit, c'est l'agent par lequel il va nous, nous transformer. Et c'est une prière. Et à travers sa prière, il veut nous amener à ce qu'on prie en accord avec le Saint-Esprit. Il veut nous amener à ce qu'on ait les pensées de l'Esprit, qu'on ait les pensées de Christ. Et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Et il nous reste un petit bout de phrase. Comment être fortifié ou sur quel fondement être fortifié? On a vu que l'énoncé principal, c'était qu'on soit fortifié dans notre être intérieur par son esprit. Sur quelle base? La richesse de sa gloire. L'expression qui trouve son équivalent dans le chapitre 1 au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la glorieuse richesse de son héritage au sein, au milieu des saints. Le lecteur est l'héritage de Dieu. Tu es en train de dire aux Éphésiens, vous êtes l'héritage de Dieu. La part de la richesse de sa gloire. Cette gloire, on peut la définir comme un éclat. C'est quelque chose qui sort vers l'extérieur. La gloire de Dieu dans la Bible est souvent communiquée à travers quelque chose qui resplendit, la lumière. Sur le mont de la Transfiguration, dans Luc 9, il nous dit « Nous avons contemplé sa gloire ». Qu'est-ce qu'ils ont vu? Jésus qui est transfiguré. Jean, dans le premier chapitre de son évangile, nous dit « Nous avons contemplé la gloire comme celle d'un Fils unique, Jésus-Christ, qui est la gloire de Dieu. » Il est, Hébreux 1:3, il est le rayonnement de sa gloire. Christ est la gloire de Dieu. Et sur quel fondement qu'il peut nous fortifier? La richesse de sa gloire. Dieu veut montrer sa gloire. Quand on allume une lumière dans une pièce qui est noire, qu'est-ce qui se passe? Il y a une source, le globe, et la lumière est projetée dans la salle. Ça pousse vers l'extérieur. Ça sort, ça nous éclaire. Et Dieu veut montrer sa gloire. Et comment il le fait? Bien, dans Éphésiens, il nous dit que Christ est la gloire, mais qu'il, nous qui sommes pécheurs, il est mort parce qu'il nous aimait, il nous a ressuscités et il va nous glorifier, nous identifier avec lui. Et il envoie son esprit dans notre cœur qui va nous éclairer, qui va déverser son amour dans le croyant. C'est l'Évangile. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens 4:4, il mentionne que c'est l'Évangile de gloire. C'est à travers l'Évangile. Comment la lumière est projetée au monde? Par l'Évangile, avec l'Église qui projette cette lumière par l'extérieur. Quel est le plan d'évangélisation de Dieu pour le monde? C'est vous. Vous êtes, nous sommes, parce que je suis là-dedans, le peuple de Dieu, le plan d'évangélisation pour le monde. Et la nature nous enseigne sur ça. Il y a un phénomène en astronomie qui est vraiment passionnant. On regarde dans un télescope, puis il y a des places qui n'ont pas de lumière, il n'y a rien. Et cet objet qui est noir, qui n'a pas de lumière, on l'a appelé un trou noir. Et qu'est-ce qu'un trou noir? C'est un objet que l'attraction est tellement forte qu'elle empêche la lumière de sortir. C'est une étoile qui s'est effondrée sur elle-même. Ça devient tellement fort que les photons, là, la lumière, ne peut pas sortir parce qu'elle retient. Mais il nous dit qu'il veut qu'on soit enraciné et fondé dans l'amour sur le fondement de sa gloire. C'est quelque chose qui doit sortir. La gloire est manifestée dans l'amour. C'est quelque chose qu'on ne doit pas retenir. C'est quelque chose qui doit être manifestée qu'on doit être capable de voir dans l'Église, autant dans nos relations. On ne peut pas garder ça pour nous-mêmes. Puis si vous le gardez tout pour vous-même, puis vous êtes toujours égocentré, bien dites-vous que la nature appelle ça un trou noir. Et c'est quelque chose. Bien d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. À tous connaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous vous aimez les uns les autres. Et mon deuxième point, Paul veut que nous connaissions la profondeur de l'amour de Dieu. Évidemment, cette affirmation est fondée sur la précédente. Parce qu'on peut être fortifié dans notre âme intérieure, bien, on peut connaître la profondeur de l'amour de Dieu. Et pour ce faire, Paul va nous donner deux illustrations. La première est tirée de la botanique, enracinée. La deuxième, de l'architecture, fondée dans l'amour. Enracinée dans l'amour et fondée dans l'amour. Il faut souligner dans nos versets, relisons versets 17, 18 et 19. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. L'ordre des mots dans l'original met de l'avant, c'est une des langues qu'on peut jouer avec l'ordre des mots, l'anglais aussi je pense fait ça un petit peu, mais l'amour est mis en début du texte. Et ce qui veut dire que l'emphase que l'auteur veut nous donner est sur ça, c'est l'amour. L'amour est mis de l'avant, c'est l'emphase dans le texte. Tandis que enraciné et fondé nous parle plutôt du processus et le résultat de cela. Et on doit être fondé et enraciné dans l'amour. L'amour de Christ nous fournit des motivations nécessaires qui rend le croyant capable d'aimer les autres. Puis si vous me connaissez un peu, vous savez sûrement que c'est difficile de m'aimer. Et c'est difficile de vous aimer. Will me pointe du doigt. Il fait signe. Yes! Toi aussi, t'es dur à aimer. Vous êtes tous durs à aimer. Et le fondement, c'est être enraciné dans l'amour, fondé dans l'amour, parce qu'il veut que ça sorte, dans l'Église au moins, j'espère. Et les chapitres qui vont suivre, 4, 5, 6, vont parler justement de ça dans les relations qu'on doit avoir. Il est évident que Dieu peut accorder cette connaissance au lecteur de Paul. Mais en fait, cette connaissance nécessite une action divine. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il faut que Dieu fasse l'œuvre dans le cœur du croyant, sinon on ne peut pas atteindre cette connaissance. Et la foi, si je lis bien au chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Donc, ça prend une action divine de nous donner cette foi pour qu'il puisse agir et qu'on puisse arriver à cette connaissance. Et commençons par cette première image, la botanique. Enracinée dans l'amour. Bon, mes deux points. Enracinée dans l'amour. Quand on prend l'image d'une plante, pour parler de la vie chrétienne, on peut utiliser cette image de plusieurs façons. Par exemple, on peut prendre l'image de la plante pour parler de notre croissance spirituelle. Donc, la croissance, maturité spirituelle deviennent un petit peu synonymes, et c'est une image qui est valable, que la Bible aussi utilise à certaines places. Mais il y a d'autres façons qu'on pourrait prendre l'image de la plante, comme ici dans notre texte, pour attirer l'attention plutôt dans le type de sol qui va favoriser cette croissance. Et dans ce cas, il faut regarder un mot. Enraciné dans l'amour. Et le dent attire l'attention sur le type de sol. Et dans la Bible, il y a plusieurs types de sol. J'en nomme quelques-uns. L'orgueil, la vanité, l'égocentrisme, le légalisme, la culpabilité. J'en passe. Et le sol, ici présent, c'est l'amour. Et l'amour, est-ce que j'ai qualifié de sol fertile? Parce qu'il favorise la croissance vers une maturité. C'est l'état de où est-ce qu'on est. Où est-ce qu'on se tient? Où la plante est plantée? Être dans l'amour. Et l'amour est ce sol propice à la croissance. Maintenant, remarquez les mots. C'est important d'une fois regarder les mots. Que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Cette portion de texte nous parle non pas de l'amour de Dieu pour nous, de se tenir dans l'amour de Dieu, il va le traiter un petit peu plus tard. Mais il parle plutôt de notre amour envers Dieu, qu'on doit être enraciné et ça va se manifester. C'est ce qui doit dominer nos vies parce qu'il a mis son esprit en nous et il veut changer nos pensées pour nous amener vers ça. La Bible parle de cet amour qui est planté en nous de d'autres façons. Entre autres, un texte qu'on a vu ce matin, la semaine passée, qu'on a touché un petit peu ce matin, Romains 8, 28, il nous dit que ceux qui sont appelés de Dieu aiment Dieu. Mais Romains chapitre 1 aussi nous dit que ceux qui l'appellent, il les aime. Et quand il déverse sa grâce sur un pécheur, il lui donne cet amour qui le rend apte à aimer Dieu. Et préalablement, je ne l'ai pas. Et la souffrance est d'autres types de choses. Le doute, ça met en évidence que je ne l'ai pas, la capacité d'aimer Dieu par moi-même. Mais ici, l'image ne parle pas juste d'avoir des racines. C'est pas une plante, contre toute attente, un pissenlit a des racines. Mais pas très profondes, ce qui fait que je peux l'arracher assez aisément. Mais chez nous, j'ai un érable assez gros, là, je fais même pas le tour du... Puis en plus de ça, lui, il est bien alimenté parce que j'ai ma fosse septique, mon champ d'épuration s'en va par là. Fait que, puis les racines, ils ont tendance à tendre vers ça. Puis des grosses racines. Puis ça allait des racines qui sortent de la terre. Puis c'est des grosses racines. Puis d'après moi, si on veut couper ça, à un moment donné, il va falloir prendre 3-4 bulldozers et une dynamite parce qu'il est vraiment gros. Là. Mais ça nous parle de profondeur puis de la solidité de l'enracinement dans lequel je vais être. C'est pas juste un petit pissenlit dans le milieu d'un désert sec. Mais c'est l'amour est une place que je peux plonger mes racines, que je peux saisir l'amour de Christ qui va se manifester par la suite dans ma vie. Et donc, ça nous parle de profondeur, de solidité. D'où la deuxième image, de fondation, l'architecture. Et je me permets de passer cette image, mais tout ça pour dire que ça nous parle de permanence, de durabilité. Et je résumerai avec le psaume 11, verset 3, qui nous dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que restera-t-il? » Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, 3, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ça nous parle de la solidité du sol, la profondeur et la richesse que je peux tirer de là-dedans, qui va faire que je vais bâtir une vie chrétienne solide. Une vie chrétienne sans amour, ça n'existe pas. 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Je vais le dire. Ça fait trois semaines ou un mois à peu près que j'ai reçu deux situations dans l'Église j'en revenais pas. Il y en a une que je parle pas, parce que je veux pas. Mais une entre autres, qui, je pensais pas voir ça de mon vivant, là, celle que je parlerai pas. Puis l'autre qui m'a profondément troublé. Une personne qui vient à l'Assemblée, qui a de l'opposition par des frères et des sœurs dans l'Assemblée, parce qu'il y a 15 ans, son fils a fait des choses difficiles, puis elle a eu des problèmes avec son adolescent. Puis dans l'Église, elle me partageait qu'elle a de la difficulté à avoir des relations, et c'est ce qu'on lui reproche. Quelque chose. C'est la place qui devrait avoir le plus d'amour, c'est l'Église. Il faut que ça sorte. Il faut qu'on aille vers ces gens-là. Elle ne peut pas payer pour ses enfants. En plus, il est devenu chrétien, puis il vient à l'Église, son fils. Enraciné, fondé dans l'amour, et ça doit aller dans toutes nos relations. Avec les frères, les sœurs, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Regardons la structure des versets 18 et 19. Il y a deux demandes de Paul. Pour être capable de comprendre avec tous les saints, et aussi en sorte que vous soyez... et de connaître l'amour du Christ. Deux demandes. Deux verbes. Connaître, comprendre. Quelle est la relation entre les deux? Parce que si on regarde le passage, il y a ces deux-là, il veut qu'on connaisse, puis qu'on comprenne. Puis entre les deux, il y a quelque chose qu'on a de la difficulté à saisir. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Dans les années fin 1700, début 1800, l'armée de Napoléon a débarqué dans une vieille prison qui a servi à l'Inquisition espagnole. Et dans la prison, il y avait un cadavre qui était pourri depuis longtemps, et il était attaché par une menotte au mur. Mais il y avait un témoignage de ce soldat. C'est qu'il avait gravé sur le mur une croix, avec ses doigts malgré tout. Et en haut de la croix, il était marqué « hauteur ». En dessous de la croix, profondeur. À gauche, largeur. Et à droite, longueur. Ça a stupéfait les soldats qui sont rentrés dans cette prison. Et ce soldat, malgré des temps très difficiles, c'est une prison qui était dans un sous-sol, sous terre, très humide. Et il y avait des rats, toutes sortes de choses là-dedans. Et bizarre. Mais a voulu, malgré cela, communiquer l'excellence de l'amour de Christ. Et la souffrance, dans un cas comme ça, semble être un terrain propice pour réfléchir un petit peu à la souffrance, à notre souffrance et à l'amour de Dieu pour nous. Et j'aimerais regarder deux points. Et je mentionne ça parce que c'est dans notre contexte ici, et je soulève deux points. Premièrement, l'amour de Dieu dans le contexte de la souffrance. Paul, au verset 13, qui précède notre exposé d'aujourd'hui, « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » Probablement que les Éphésiens vivaient des tribulations puis une certaine honte du grand prédicateur Paul, fondateur d'Église, dont probablement celle d'Éphèse, je ne me trompe pas, j'ai un blanc, il me semble, il avait fondé cette Église-là dans la région... Celle d'Éphèse, merci. Puis il avait fondé cette église-là, puis il était dans une prison romaine. C'est peut-être une honte pour ceux qui vivent à Éphèse. Il dit, prenez courage. Et deuxièmement, le passage est introduit par l'idée de filiation. Au verset 15, de qui? Versets 14 et 15. « C'est pourquoi je fléchis devant le genou devant le Père de qui toute famille dans les cieux tire son nom. » Le Père, c'était qui? Une famille. L'Église. Évidemment, l'idée de père a certaines limites, parce que si je dis que Dieu, c'est le bon père de famille, vous avez été violé dans votre enfance, mais c'est le père parfait qui s'est pris une église. Mais il faut souligner aussi, puis je tiens à souligner l'image, certaines limites, mais aussi il faut dire qu'on n'a pas la tendance naturelle à aller vers ce Dieu, vers ce Père pour nous. Et dans une réflexion sur la souffrance, Don Carson a illustré ce principe de filiation dans la souffrance. Si mon fils s'écorche le genou, il se précipite dans mes bras en pleurant. Il ne se lance pas dans de longues discussions philosophiques pour savoir si mon père se soucie de ce qui lui est arrivé. Il vient chercher un câlin. Et j'aimerais vous dire qu'il faut garder ce cœur d'enfant et de courir vers le Père. Et c'est ce qui fait compléter Don Carson. Ce n'est pas un signe d'immaturité, mais de filiation. Dans les temps de souffrance, c'est pas de l'immaturité spirituelle, de « je vais être fort et saint, de par moi-même surmonter cela ». Mais c'est une filiation d'amour que j'ai envers Dieu, de tendre vers lui, et en l'occurrence ici, à travers la prière. Et si ce n'est pas mon réflexe de courir vers mon Père comme ça, c'est peut-être justement un signe que votre relation s'est détériorée, ou que ma relation s'est détériorée, que notre relation s'est détériorée. Et Paul prie pour que ses destinataires expérimentent cet amour infini de Dieu, incompréhensible. On a besoin de prière fervente, de cultiver une connaissance de la personne de Dieu pour qu'on connaisse. Et il y a ces quatre dimensions. Longueur, hauteur, largeur, profondeur. Comment interpréter cela? Quatre interprétations principales dans les commentateurs. Il y en a qui associent à la puissance de Dieu, le mystère du salut, la sagesse infiniment variée de Dieu ou l'incomparable amour de Christ. John Walvoord dit ceci, « Tous ces termes ne décrivent pas tant le degré de compréhension que vraisemblablement l'immensité de la chose qui doit être comprise. » Et si on considère ces quatre expressions de hauteur, largeur, profondeur et largeur, c'est dur de les dire dans l'ordre, largeur, longueur, profondeur et hauteur. Si on les considère comme un tout, ça l'évoque l'immensité, l'ampleur, la magnitude d'un objet particulier à aimer. Et dans ce sens, on peut pencher vers la quatrième interprétation pour ce qui est de l'amour de Christ qui tient en compte du contexte. Et si c'est le cas, la suite du passage, à savoir que et de connaître l'amour de Christ, et voilà l'amour qui surpasse toute connaissance. Et le surpasse toute connaissance agit un petit peu comme un synonyme de toutes ces qualités de grandeur, largeur, hauteur et de profondeur. Et l'objet du passage, c'est l'amour de Dieu. Mais il faut souligner ici tantôt qu'on parlait de l'amour qu'on doit avoir pour Dieu, mais ici nous parle de l'amour de Dieu pour nous. Et là, je dois couper. Dans notre compréhension du christianisme, il y a peut-être deux extrêmes. Il y a cette tendance à rechercher l'amour, ce feeling, ce sentiment, de ressentir ça. Et de l'autre, c'est doctrine, discipline. Là, tu es chrétien, là, pasteur, tu marches. Mais des sentiments sans fondement, ça ne fait pas quelqu'un de fort. Mais une vérité sans amour aussi. Et ça a tendance à nous amener vers deux extrêmes qui ne sont pas équilibrés. Il veut qu'on comprenne, mais il veut qu'on expérimente. Et de quelle façon, en connaissant de plus en plus cet amour que Christ a pour nous. C'est une vérité, le christianisme, qui est différente de toutes les autres vérités parce qu'il nous parle d'une personne qui est vivante. Christ est vivant. Et quand on commence à connaître Christ, on commence à connaître son amour. Et quand on commence à connaître son amour, on commence à aimer Christ, à aimer aussi son peuple. Paul veut qu'on soit fortifié dans l'homme intérieur. Il veut qu'on connaisse la profondeur de son amour. Et à ce point, au verset 20, « Or, celui qui, par la puissance qui agite en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire, la louange, dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Paul élève Dieu qui peut faire encore plus que ce que l'on pense. Est-ce que votre Dieu est trop petit? Est-ce que la gloire ou la grâce de Dieu est trop petite? Et souvent, peut-être un problème que j'ai, puis je suis convaincu que je suis tout seul là-dedans, c'est que souvent, peut-être qu'on n'est pas convaincu que Dieu peut répondre à nos demandes. Et c'est peut-être justement ça qui fait qu'on demande justement pas. Et toute cette section sur l'amour de Dieu, les requêtes de Paul, c'est des grosses requêtes, là, qu'on soit fortifié dans l'être intérieur, enraciné, fondé dans l'amour, qu'on comprenne la grandeur de l'amour de Dieu, qu'on soit rempli jusqu'à toute plénitude de Dieu. Puis c'est à ce point-là que tout d'un coup, il semble s'arrêter puis se poser la question, qu'est-ce qui rend ça possible? Et dans l'Épître aux Éphésiens, il semble avoir juste une réponse, la grâce de Dieu. Toute bénédiction provient de la grâce de Dieu, même pour vous, chrétiens, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa gloire et de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 7. Aujourd'hui, êtes-vous... Puis c'est subtil. C'est subtil. Tu sais, ça vient, puis peut-être que vous êtes levé un matin, puis à un moment donné, vos pensées vous ont amené... Dieu ne peut pas me bénir aujourd'hui parce que j'ai chicané mes enfants, puis si vous êtes comme moi aujourd'hui, c'est passé une mauvaise journée, puis Dieu, dans ce cas, ne peut pas vous bénir parce que vous n'êtes pas en état de recevoir la bénédiction de Dieu. Ou peut-être de l'autre côté, vous vous êtes levé le matin, vous avez fait votre culte personnel, vous êtes venu partager au repas du Seigneur, ou vous avez fait des belles louanges, vous avez eu un bon temps de prière, vos pensées ne se sont pas égarées. Et là, Dieu peut vous bénir parce que vous passez une belle journée. Et j'aimerais vous dire que toute bénédiction provient de la grâce et de l'amour de Dieu. Et pour résumer ces versets, A.W. Tozer a dit ceci. Si vous croyez qu'il existe une seule bénédiction de Dieu qu'il vous accordera à cause de vous-même, vous ne vous connaissez pas. Et si vous pensez qu'il existe une seule bénédiction de Dieu qu'il ne vous accordera pas à cause de Jésus, vous ne connaissez pas Dieu. L'amour est ce sol fertile dans lequel on peut grandir. Je déborde un petit peu, mais l'amour de Dieu et la puissance dans le ministère, c'est ensemble. Dans le ministère, dans votre vie chrétienne, dans la croissance. Il y a deux semaines, on a eu une réunion dans l'Église avec un certain groupe. Puis à un moment donné, il y avait un sujet qui me passionnait énormément. Puis à un moment donné, je me rends compte que, puis je l'ai dit en plus, là, j'étais en train de m'emporter, fait que je vais arrêter là. Puis ça s'est senti. Puis il y a eu comme une espèce de silence. Puis là, je venais de me rendre compte que, là, je viens de manquer d'amour. Et c'est facile de manquer d'amour. Et j'essaie de vous donner des situations concrètes qui me concernent, puis qui concernent toute l'Église, pour que vous vous sentiez impliqués dans ça. Et j'ai été obligé d'envoyer un courriel par après pour m'excuser. Et quand je vais les voir en face, parce qu'on ne peut pas se rassembler, mais la prochaine réunion, en pleine face, je vais le dire, je demande pardon parce que j'ai blessé des personnes. C'est drôle, on ne se pratique même pas pour créer des divisions. Ça vient tout seul. T'sais, mes passions ont pris le dessus, j'étais enflammé, à un moment donné, tu t'en rends compte, il y en a trois qui se sentent mal à l'aise, l'autre qui te répond, il te cite un verset biblique, puis tu sais qu'il a raison. T'sais. Puis après ça, tu arrives chez vous, bon, je vais faire mon culte personnel, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Je suis fait à l'os. Il a dit à Timothée, « Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » C'est pas facile d'aimer. C'est souvent un acte de volonté. C'était pas facile pour Christ de venir aussi mourir pour vous et puis pour moi. Et je termine par cette phrase. L'amour est un sol fertile parce qu'elle est centrée sur Christ. C'est le sol, j'espère, dans lequel nous allons grandir. Alors, on ne sera pas parfait, on va en faire des erreurs. Mais la pensée de Christ va nous amener à marcher dans cette grâce et à faire grâce et à aimer de façon volontaire parce qu'intrinsèquement, là, on a de l'air de ça. Mais l'amour est un sol fertile parce qu'elle pointe et elle est fondée sur Christ. On va prier. Oui, Seigneur Dieu, merci pour cet amour que tu as eu pour nous. Et aujourd'hui, on comprend, j'ose espérer qu'on puisse comprendre un petit peu plus pourquoi la croix, pour nous croyants, on doit la chérir et l'aimer parce qu'elle nous montre l'amour que tu as eu pour nous, Seigneur. C'est précieux. On se rend compte qu'on n'aime pas facilement, Seigneur. Et pardon, parce que même moi encore, tu sais, je viens exposer ça aujourd'hui, mais je suis tellement faible, Seigneur. Mais tu veux qu'on se fortifie, qu'on croisse, qu'on plante nos racines dans cette grâce. Et tu vas le faire sur toute notre vie. Et un jour, face à face, Seigneur, on va te voir. On va voir les mains percées, puis on va comprendre cet amour, Seigneur. Mais en attendant, tu nous dis que pour tous les saints, Seigneur, on peut avoir cette connaissance. Fais grandir en nous, Seigneur, cette connaissance par ton Fils, Seigneur. Amen. Le Seigneur vous bénisse.